Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Gaulois mais romains. Chef-d'œuvre du musée d'archéologie nationale, le musée de Saint-Germain-en-Laye dont je vais parler d'ici peu. Mais pas que, beaucoup d'objets ici ont été prêtés pour une muséographie remarquable, pour cette exposition temporaire qui prend sa place du 29 mai 2025 au 4 janvier 2026. Donc il y a largement le temps d'aller la voir et la revoir. Elle a été inaugurée le 27 mai, j'y étais, et j'aimerais vous faire profiter de cette visite justement enchanteresque et enchantée qui eut lieu donc pour nous présenter cette nouveauté. Donc Antiquissimo vous emmène aujourd'hui partager une belle visite guidée commentée au travers de cette exposition et en présence de quatre personnes qui ont contribué à éclairer nos lanternes qui ne demandaient que ça. Sur la photo que j'ai choisie pour le podcast, vous les voyez, ces quatre personnes. Fabrice Cavillon, directeur de SPL, Société publique locale, culture et patrimoine. Nicolas Delarquet, qu'on ne présente plus, le conservateur en chef du musée de la Romanité. Rose-Marie Mousseau, qui est à la direction du musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye. C'est très long, mais il faut bien tout dire. Donc, cette conservatrice en chef du patrimoine à la tête du musée d'archéologie nationale, qui est un phare européen pour l'archéologie gallo-romaine, nous a aussi replacé en effet les objectifs de ce musée. Et Thierry Dechel, le prêtre, conservateur en chef du patrimoine et responsable scientifique des collections de la Gaule romaine dans ce même musée, était donc présent pour nous proposer des éclaircissements sur toute cette exposition en trois parties, je vais vous le dire dans peu de temps. Eh bien, ce musée de la Romanité, ouvert depuis le 2 juin 2018, va bientôt fêter ses 7 ans. Et on peut dire que c'est un beau succès, non seulement pour le nombre des visiteurs, mais aussi pour ses expositions temporaires, qui depuis 2021 sont des expositions fabrication maison, comme dit Nicolas Delarquet, puisque depuis 2021, le musée vole de ses propres ailes en créant ses espaces personnels, en faisant venir des objets à droite et à gauche. Et ici, ces objets viennent bien donc du musée de Saint-Germain-en-Laye, dont nous aurons à parler pas mal tout à l'heure. Ce partenariat fait suite à un autre partenariat dont vous avez déjà entendu parler avec le Louvre. Le musée du Louvre avait déjà prêté en 2021 pas mal d'objets pour une exposition temporaire et s'apprête à refaire de même en 2026, car on prépare déjà l'exposition suivante pour 2026. Alors il se trouve, c'est Nicolas Delarquet qui nous l'a expliqué, que ces deux musées, non seulement parce qu'ils sont dans le partenariat qui s'est créé dans une belle synergie autour des musées de la Narbonnaise et de la Lyonnaise antique, qui ont mis en commun leur réseau, leurs ressources pour travailler sur ces thèmes riches de l'archéologie, et bien donc ces musées qui se sont associés en partenariat et qui créent ce réseau si riche bénéficient d'un étrange et bienvenu concours de circonstances, je l'ai dit, puisque au hasard de travaux qui vont être entrepris dans l'un puis dans l'autre musée, eh bien, il était arrangeant de déplacer les œuvres que de toute façon on n'aurait pas vues sur place pour en faire profiter, eh bien, par exemple, Nîmes. Donc, nous voici donc dotés d'un nombre incroyable d'objets, des objets qu'on connaît, des objets qu'on ne connaît pas et qui vont nous proposer la vie quotidienne en Gaule, une vie qu'on connaît finalement pas si bien que ça. Parce que justement, le challenge, c'était aussi de déconstruire des tas d'idées reçues comme d'habitude, de mettre à distance des stéréotypes, même s'ils nous amusent, même s'ils nous plaisent. Astérix, on adore. Les sangliers que dévore Obélix aussi. Toutes ces idées reçues qui ont la vie dure, il fallait aussi les remettre en perspective et prendre nos distances par rapport à elles. Certes, nous sommes dans la Gallia Comata, Cette Gaule dite chevelue, c'est un terme que les Latins ont inventé. Alors, est-ce qu'elle est chevelue parce que ces braillards de Gaulois, d'après les Romains, bien entendu, auraient eu une chevelure peu disciplinée par rapport à celle des Romains qui est toujours bien au carré, en tout cas dans les périodes que l'on connaît le mieux? Ou bien est-ce que cette Gallia Comata, ça fait allusion au nombre incroyable de forêts qui peuplaient cet espace de la Gaule, non pas de la Gaule, des Gaules, puisque la Gaule, ça n'existait pas, il y avait trois Gaules, sans compter cette Narbonnaise à laquelle nous appartenons et qui depuis fort longtemps était romaine. Donc cette exposition, elle s'organise autour de trois grands thèmes, la société gallo-romaine, le domaine des dieux, la religion, et l'invention de l'archéologie, le rôle des musées. Parce que bien sûr, cette troisième partie a son importance. Le musée de Saint-Germain-en-Laye, il faut le rappeler, a été construit dans un château royal que Napoléon III a dédié à l'archéologie qui était alors à ses balbutiements. Ce féru d'histoire, ce novateur en matière d'archéologie, donc voulait donner une place à tous ces objets que l'on trouvait, que l'on aimait, que l'on voulait comprendre. Alors bien sûr aussi, on le sait, Napoléon III s'est servi de ces Gaulois pour en faire des outils de sa propagande, bien entendu. Et toute la dernière section rend hommage à ce Napoléon III, tout en même temps qu'elle observe avec un certain amusement comment il a su se servir des Gaulois et de Vercingétorix pour servir son histoire à lui, sa propagande. Alors, je m'arrête de parler pour laisser la parole à Thierry Dechelle-le-Prêtre qui va évoquer avec cette conquête assez violente de la Gaule, je rappelle que ce n'est pas la Narbonnaise, les Gaules, il va évoquer une stèle particulière que l'on voit normalement à Bourges, la stèle de Julia Paulina, qui va lui permettre de contextualiser, de donner un cadre à ces fameux Gaulois. Nous l'écoutons.
L'imaginaire aujourd'hui pour les Français, c'est un pays voilà, qui était couvert de forêts, avec des sangliers sauvages et des Gaulois tout aussi sauvages. Voilà un petit peu la manière dont se représente aujourd'hui en termes de perception la Gaule. Et donc c'était évidemment pour nous l'occasion, ce film hein, que vous pourrez découvrir, je ne sais pas si tu voudras en dire un mot sur... Voilà, ce film est vraiment là pour commencer à déconstruire un petit peu tous ces mythes que nous avons et qui sont hérités tout simplement, on aura l'occasion d'en reparler, des manuels d'histoire et celui de Lavis pour ne pas le citer. Et puis, j'ai les épigones en quelque sorte que sont Astérix et Obélix qui vont vulgariser finalement un savoir qui a été mis au point au XIXe siècle. Donc c'est toute cette histoire qu'on va raconter. Comme Romain Mousseau le rappelait, on intègre dans cette exposition aussi tous les éléments les plus récents de la connaissance archéologique. Parce que vous savez que le propre de l'archéologie, c'est qu'on ne le sait pas trop d'ailleurs, mais dans les sciences humaines, c'est l'une des sciences qui renouvelle le plus son savoir. Tout simplement parce qu'elle produit ses archives. Et ces archives du sol, elles se produisent en fait... par centaines chaque année, il y a environ 2000 opérations archéologiques sur le territoire français. Et tout ça, évidemment, nourrit le savoir des archéologues et les musées. Et c'est là où il faut replacer aussi le rôle des musées, le musée d'archéologie nationale, mais tous les musées du territoire, le musée de la Romanité en fait partie, sont là, en fait, pour donner ces connaissances, donner ce savoir et le valoriser. La France, la Gaule plutôt, les trois Gaules se trouvent au centre. Et donc ça va générer tout un ensemble de circuits dont les ports vont profiter, les ports situés donc sur la côte méditerranéenne, mais également sur la façade atlantique. Et l'axe qu'on repère et qui sera vraiment très très important, c'est évidemment l'axe de la Saône, du Rhône, et puis la Moselle, et donc on remonte jusqu'au Limès. Donc c'est vraiment une colonne vertébrale qui va être mise en place, et on le voit donc au niveau de l'armée, hein, bien entendu, mais on le voit aussi au niveau des négociants, qui vont être particulièrement importants dans certains lieux, et notamment au niveau de Lyon, qui devient la capitale des Gaules, et qui sera aussi un point relativement névralgique par rapport à cette question du commerce. Alors, le commerce en quelques mots, hein, on va évidemment importer du vin, alors je parle pour les troupes, mais on va importer aussi de la sauce de poisson, vous savez, le fameux larron. On va importer aussi de l'huile, et puis on va importer tout simplement pour ravitailler les troupes, à la fois du froment, de l'orge, des chevaux, etc., etc. Donc tout ceci va transiter bien souvent par la Gaule, et c'est ça finalement qui va faire en quelque sorte que la Gaule va se relever assez rapidement, puisque on va avoir besoin de ces Gaulois qui savaient cultiver, hein, César le dit, la Gaule était un grenier, et donc ça va se poursuivre après la conquête dans le cadre d'une nouvelle organisation.
Alors maintenant que nous sommes sortis de la forêt gauloise et de tous ces stéréotypes, nous allons regarder avec attention une première vitrine à l'entrée de l'exposition avec de beaux objets emblématiques. Un héros de calcaire avec son sanglier, d'une part, et de l'autre côté, une laie, un sanglier femelle, une laie que l'on trouve à Cahors. Au-delà des représentations habituelles, voire caricaturales, mais il faut interroger ces deux objets dont parle fort bien Thierry de chez le prêtre.
Alors, ça passe aussi, bien évidemment, cette médiation par des objets. Alors, pour se centrer sur les chefs-d'œuvre qu'on vous annonçait, vous avez là donc une première sélection d'objets, parmi lesquels donc, le dieu dit de Phinex, cette petite statuette en calcaire, qui n'est peut-être pas un dieu. Voilà donc un premier cliché qu'on aurait envie un peu de remettre en cause. On aura l'occasion là aussi d'en reparler. Les divinités gauloises en fait sont très peu connues. On aura l'occasion de voir que finalement il n'y a pas de représentation gauloise avérée. Toutes les représentations sont postérieures à la conquête. Donc c'est la raison pour laquelle celle-ci est intéressante, parce qu'il s'agit plutôt, sans doute, d'un héros, d'un ancêtre, qu'on a voulu mettre en avant et le représenter avec ce symbole, donc le symbole du sanglier qu'on a déjà évoqué, et puis également d'autres symboles qui sont représentés sur les flancs. Alors, je précise tout de suite, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire, mais ces objets, comme souvent, sont présentés au fond de vitrines. Ils ne sont pas forcément faciles pour les découvrir en 3D, mais ces 3D seront accessibles via une table, donc vous aurez l'occasion de pouvoir les découvrir pleinement. Voilà. Et la star un petit peu aussi de cette vitrine, c'est cette laie qui a été découverte à Cahors et qui vous montre un animal finalement qui est très naturaliste dans ses traits. Alors cette laie de Cahors, elle date du IIe siècle. Donc vous voyez qu'on est on a bien avancé là dans l'époque gallo-romaine. Mais ça veut dire tout simplement que cet animal qui est très présent dans la société gauloise, qu'on trouve sur les monnaies, d'ailleurs vous avez ici au musée de la Romanité des bronzes, des petites monnaies en bronze qui représentent des sangliers, parce que c'était vraiment un animal iconique hein, pour les sociétés gauloises. Mais le sanglier représente aussi la force, c'est aussi un animal qui est présent dans la mythologie, hein, notamment le sanglier de Calydon. Artémis avait essayé de se venger donc en faisant intervenir ce sanglier. Donc finalement, le sanglier va être présent durant toute l'époque romaine. On va le retrouver notamment dans la sculpture et dans l'art.
La section 3 de l'exposition nous conduit à essayer de connaître ce panthéon gaulois que justement on connaît mal. Et j'attire votre attention sur un personnage dont nous sommes très fiers à Nîmes, c'est Espérant Dieu, originaire de notre région, et qui, lorsqu'il se retirera à Nîmes après avoir été cet archéologue réputé, deviendra conservateur des monuments antiques à Nîmes, membre de l'Académie de Nîmes et membre de l'École antique. Donc cet Espérant Dieu, c'est lui qui va beaucoup chercher et publier sur le sujet des pratiques religieuses. Et c'est grâce à lui qu'on en sait un tout petit peu plus sur la religion gauloise et sur ses avatars romains.
Malheureusement, le panthéon gaulois n'est pas connu. Pendant très longtemps, on s'est focalisé sur la mention de Jules César dans la guerre des Gaules, qui décrivait, hein, vous avez une reprise de son texte, qui tentait de transposer en quelque sorte Panthéon gaulois et Panthéon romain. Aujourd'hui, des spécialistes tels que William Famorandrika considèrent que le Panthéon gaulois, en fait, était plutôt une myriade, une constellation de dieux, qui était très axée sur un territoire et qu'il est très difficile, en fait, de pouvoir vraiment le définir avec précision. Pour autant, ce que dit César est tout à fait intéressant, puisque dans son vocabulaire, en quelque sorte, il a transcrit ce qu'il voyait. Hein, donc, ça en fait quand même un témoin de premier ordre. Et donc, il a considéré que le dieu le plus important, c'était celui-ci, Mercure, le dieu du commerce, le dieu des arts également, le dieu aussi des voyageurs. Voilà. Et Mercure est représenté ici, donc, dans le trésor de Champoulet, ainsi qu'au travers de cette sculpture, qui est une adaptation, en quelque sorte, de la sculpture gauloise.
Il y aurait beaucoup, beaucoup à dire encore, mais il nous faut terminer cette émission et je préfère terminer par un élément central de l'exposition, enfin je l'ai trouvé central, c'est la reconstitution d'une voûte d'une villa gallo-romaine qui a été mise en lumière, mise à jour, en région parisienne, près des Ménules. C'est la villa gallo-romaine de la Millière qui a été trouvée en 1963 par l'archéologue François Zuber, qui, en parcourant la forêt de Rambouillet à la recherche des vestiges de la voie romaine, a découvert dans cette vallée de la Millière les restes d'une construction. Grâce à la présence de buis et de mercurial vivace, grâce à ces plantes qui indiquaient la présence de calcium et donc de chaux, grâce aussi à un tesson de poterie qui a tout de suite tourné l'attention vers l'Antiquité, grâce à un fragment de fresque murale polychrome qui annonçait la présence d'un luxueux bâtiment. Ces fouilles commencées donc en 1964 ont permis à des bénévoles conduits par ce François Zuber et dans le cadre d'une association de la villa gallo-romaine de la Millière, ont conduit à retrouver les fondations de cette villa extraordinaire du 1er siècle après Jésus-Christ, qui a été habitée jusqu'au 2e siècle, qui faisait à peu près 30 mètres de long, 15 mètres de large, 5 mètres de haut, avec une construction très soignée, un système d'hypocaus, donc de chauffage élaboré, et de toute évidence, la villa était luxueuse. Son plan était un plan très répandu dans le nord de la Gaule, un plan dit à galerie façade, et c'était sans doute une riche résidence secondaire, peut-être un relais de chasse. Sur un plafond en voûte d'arête, au-dessus de l'hypocauste, il y a des figures humaines qui sont dessinées, qui symbolisent les quatre saisons, et vous les verrez dans l'exposition. Ces fresques sont les seules représentations humaines grandeur nature peintes de l'époque gallo-romaine, retrouvées donc sur notre territoire de France. Et vous allez admirer, vous aussi, les fresques qui ont été ici reconstituées, qui vous donneront une idée de l'ampleur et de la beauté de cette villa de région parisienne.
C'est vrai que, voilà, on arrivait, on est habitué à des choses un peu plus conséquentes. Avec une organisation, et là on peut voilà, avoir recours justement à cette modélisation 3D, on voit la façade donc, de cette villa qui était la partie résidentielle, hein, ce qu'on appelle dans le jargon des archéologues la pars rustica, qui s'oppose en fait à la partie agricole. Donc la part, d'ailleurs j'ai inversé, urbana pour la partie résidentielle et rustica pour la partie rustique, donc agricole. Voilà, en général, on a des bâtiments qui se développent à partir de la partie résidentielle et surtout des bâtiments agricoles de type grange pour le stockage ou écurie. Et ça sur plusieurs dizaines d'hectares parfois. Alors là, les fouilles ont surtout concerné donc cette villa de 450 mètres carrés. Et on a là un exemple vraiment d'importation de l'art de vivre à la romaine, mais à tout point de vue. Alors, il faut imaginer donc cette pièce dans cette villa, et celle-ci donc correspond à la seule qui était chauffée. Elle était chauffée par le sol, et on avait une hauteur sous plafond de 4 à 5 mètres. Parce que ce qu'on a importé, c'est pas uniquement le modèle de ces riches villas en fait qu'on connaissait en Italie romaine, mais on a importé aussi donc l'architecture. Sauf que l'architecture, vous en conviendrez, bon, pour la Gaule du Nord, eh bien, elle aurait pu être adaptée. Ça n'est pas le choix qui a été fait. Et avec une hauteur sous plafond d'environ 4 à 5 mètres, on peut considérer qu'il n'est pas très chaud dans ces maisons, d'où la nécessité, et ça c'est attesté par l'archéologie, d'avoir des braseros qui étaient déplacés de salles. Voilà, en tout cas, on a importé une architecture. On a importé aussi une iconographie, et en particulier celle des saisons. Cette voûte, elle est assez exceptionnelle. Alors, elle est assez exceptionnelle aussi par le travail qui a été fait par les restaurateurs du CEBMR de Soissons. C'est une équipe voilà, dont il faut saluer le travail. À peu près 3 ans hein, de remontage patient de ces enduits-peints, parce qu'au début de cette étude, on n'avait rien, on n'avait pas de plan pour reconstituer en fait cette voûte. Il faut bien vous dire que si on conserve des éléments d'architecture en pierre, généralement on conserve ce qui est en pierre de taille. Là, cette voûte a été montée en moellon. Donc aucune trace, aucun témoin, aucun plan bien évidemment. Donc c'est la peau, c'est uniquement la peau de cette voûte qui a permis de savoir qu'on était en face d'une voûte d'arrêt, parce qu'on a retrouvé des angles, parfois, au niveau de ces fragments de peinture murale. Et la même chose, on a également mis en évidence une voûte en plein cintre. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel aussi, de pouvoir restituer au sein d'un musée ce type d'architecture, avec voilà, tous ces éléments.
Alors vous l'avez compris, c'est une exposition originale et riche, et vous avez jusqu'au mois de janvier pour aller la voir. En revanche, plus serré dans le temps, les conférences qui vous sont proposées. Il y a déjà eu la conférence inaugurale du mois de juin avec le guide que vous avez entendu tout à l'heure, notre guide Thierry Deschelles-Prêtre. Et à partir de maintenant, vous pourrez aller voir et entendre à l'auditorium la Gaule plurielle, regard croisé sur les Gaules romaines du Nord et du Sud. Ça, ce sera le 14 juin, samedi 14 juin à 14h, dans le cadre des Journées européennes de l'archéologie. C'est Vivien Barrière qui vous la proposera, un maître de conférence en histoire et archéologie à Cergy Paris Université. Puis ensuite, je ne vais pas égrener tout ce que vous ai proposé, c'est trop loin dans le temps, mais vous aurez en juillet un spectacle musical, le dernier des druides. Vous aurez en septembre à nouveau un spectacle, Le cochon du roi des Éduins ou les folles aventures de Bruno le Sénon et de ses compagnons. Puis en octobre, un documentaire et des conférences à nouveau sur les lieux de culte et pratiques rituelles en Gaule romaine.
Je ne vous ai pas tout dit, mais on ne va pas s'avancer trop dans le temps. Je vous conseille à nouveau d'aller au Musée de la Romanité et, à l'éclairage des quelques explications que vous avez entendues, d'aller en spectateur individuel ou bien de demander une visite guidée. C'est toujours très bien, les visites guidées. Tarif plein 12 euros. Et il faut évidemment réserver pour participer à cette visite en groupe. Mais je vous dis à très bientôt. Au revoir.